Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Nouakchott en Mauritanie et notre invité est le président mauritanien Mohamed Ould Razouani. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI.
Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le Président, je veux commencer par la situation en Tunisie. Il y a quelques jours, le président Kais Saied a décidé de limoger son Premier ministre, de suspendre le Parlement. Alors une question toute simple, est-ce qu'à vos yeux, il s'agit là d'un coup d'État?
Oui, nous suivons avec beaucoup d'attention la situation en Tunisie. J'ai eu même à m'entretenir personnellement au téléphone avec le président Kais Saied. C'était pour nous enquérir de la situation du moment et pour avoir une idée qui nous vient des Tunisiens directement et surtout du président de la République. Les explications que j'ai entendues du président décrivent une situation de blocage à laquelle il a dit qu'il est en situation de faire face depuis un certain temps et qu'il s'est trouvé dans cette situation, qu'il a dû essayer de la débloquer autant qu'il se peut et que la situation que vit la Tunisie est une situation de pandémie, comme vous le connaissez bien, le niveau de propagation de la pandémie en Tunisie. Et, cette situation donc est ainsi. Et le président a bien voulu m'expliquer que là, il était dans une situation de blocage à laquelle il fallait faire face et que les moyens constitutionnels étaient là, qu'il s'agit bien de cet article 80 de la Constitution tunisienne.
Est-ce que, donc, lors de votre conversation, est-ce que vous lui avez apporté votre soutien? Est-ce que vous lui avez dit « je comprends ce que vous faites » parce qu'il y avait une situation de blocage? Ou est-ce que vous lui avez dit, comme beaucoup de chancelleries occidentales notamment, « il faut revenir au plus vite à l'ordre constitutionnel »
J'ai dû comprendre de la bouche du président que lui-même était un professeur de droit constitutionnel et qu'il ne risquait pas de commettre des fautes, c'est-à-dire agir en dehors de la Constitution et que l'article 80 de la Constitution tunisienne lui confère bien le droit de mettre en veille le Parlement tunisien pendant un mois et que pour cela il y a effectivement des démarches ou des mesures à prendre, c'est le fait d'informer aussi bien son président, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que le Premier ministre, qu'il dit avoir pris toutes ces mesures.
Vous lui faites confiance en deux mots?
C'est plutôt aux Tunisiens qu'il faut poser la question de faire confiance à leur président.
Alors la Mauritanie est un membre éminent du G5 Sahel qui lutte contre les groupes djihadistes et au Mali voisin. Chez votre voisin le Mali, vous avez décidé des opérations conjointes avec l'armée malienne en territoire malien. Est-ce que ces opérations ont réellement commencé? Et si oui, est-ce qu'elles ont été déjà couronnées de succès?
Les opérations, comme vous le savez bien, le théâtre d'opérations, plus exactement l'espace G5 Sahel, dans le cadre de la composante sécurité, c'est-à-dire la force conjointe et la lutte contre les groupes djihadistes dans ce cadre. Et cet espace est compartimenté en trois fuseaux. Celui de l'Est entre le Tchad et le Niger, celui du centre entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, et celui de l'Ouest entre la Mauritanie et le Mali. Donc tout ce qui est opération amenée rentre dans le cadre de la programmation et de la planification faite par l'état-major de la force conjointe G5 Sahel. C'est à ce niveau que les opérations sont planifiées. Et effectivement, il y a des opérations qui sont programmées au niveau du Fizi Ouest. Elles vont avoir lieu le moment venu, c'est-à-dire dès que le commandement de la force conjointe l'aura décidé. En ce qui concerne le timing exact, peut-être que je ne m'en rappelle pas, et si je m'en rappelais, je dois pouvoir me réserver la discrétion un peu de ne pas le dire publiquement.
Alors, au Mali, il y a quand même eu deux coups d'État en l'espace de 9 mois. Est-ce que vous partagez le diagnostic de votre homologue du Niger, Mohamed Bazoum, qui a affirmé récemment que l'armée malienne, le leadership malien, passe plus de temps à fomenter des coups d'État qu'à combattre les djihadistes et défendre ses frontières?
Je vais, sans faire de commentaires sur la déclaration du président Bazoum, que lui, par la suite, avait éclairci, je crois qu'il avait dit plus explicitement plus tard ce qu'il voulait entendre par sa déclaration. Mais je vais dire que personnellement, je pense que le Mali est au centre de notre dispositif du G5 Sahel. C'est vrai que c'est un pays qui vit dans une situation où la menace est la plus permanente. Et d'ailleurs, c'est au nord du Mali que cette situation de terrorisme et de trafic de drogue ont commencé depuis bien avant une décennie, voire même une vingtaine d'années. Le Mali, donc, est dans cette situation. Je crois que nous devons... Il se trouve actuellement dans une situation de transition qui doit mener vers des élections en avril ou en mars 2022. Nous devons effectivement accompagner cette autorité de transition pour lui permettre de mener à bien cette mission et de l'essentiel est que le Mali puisse mener bien ses élections et qu'on respecte la durée de la transition.
Le 17 juillet, deux civils mauritaniens et trois civils chinois ont été enlevés au Mali, justement, dans l'ouest du Mali, pas très loin de la frontière de la Mauritanie. Les deux Mauritaniens viennent d'être libérés, vous les avez même reçus. Est-ce qu'on en sait plus sur les ravisseurs? Est-ce qu'on sait qui c'était?
Ceci, ces citoyens mauritaniens, ces deux citoyens ont été kidnappés, comme vous l'avez bien souligné, en territoire malien. Ils travaillaient pour une entreprise mauritanienne des travaux publics qui construisait une route entre deux villes maliennes, la ville de Nara et la ville de Kati. Non, de Kala plutôt. Dès que nous avons appris l'enlèvement de ces citoyens, nous avons aussitôt entrepris de prendre tout ce qu'il était possible de prendre comme mesure pour que cela aboutisse effectivement à la libération de ces deux otages. Heureusement, et Dieu merci, cela a fini par se concrétiser, je crois, il y a de cela deux jours. Ils sont là chez eux. En ce qui concerne la nature de par rapport à votre question ce groupe qui les a enlevés, je vous dis carrément que cela nous a pris un peu de temps pour analyser ce genre d'action et de mode opératoire, parce qu'il y a un peu une contradiction entre les modes opératoires des groupes terroristes. Généralement, ils n'essaient pas de soutirer des sous à leur otage ou de voler leur téléphone, ce qui a été le cas effectivement dans cette opération. En ce qui concerne le fait d'avoir brûlé les équipements, c'est bien leur mode opératoire. De prendre des otages, c'est bien ça. Et l'essentiel pour nous est que nos citoyens sont revenus chez eux.
Et est-ce qu'une rançon a été versée ?
Pas du tout. Pas du tout. C'est pour moi l'occasion, à travers votre chaîne, justement, de remercier de tout, très sincèrement, tous ceux ou celles qui ont contribué justement à la libération de nos citoyens.
Alors, au Mali, au Burkina Faso, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent, y compris au sommet de l'État, pour dire qu'il faut dialoguer avec les leaders djihadistes. On pense à Iyad Akrali, Amadou Koufa. Quel est votre avis sur la question ?
J'ai jamais entendu, je n'ai jamais appris qu'au niveau quand même des États, cette approche est préconisée.
Il y a le Premier ministre de transition malien qui l'a dit, on a entendu des personnes au placé au Burkina Faso qui disent on ne peut pas se battre éternellement, il faut dialoguer.
Vous savez, nous nous respectons pour les États leur volonté et leur souveraineté. En ce qui concerne le fait de partager ou non une approche, il me semble que chacun est très souverain de pouvoir...
Vous, votre position personnelle ?
Nous, on n'a pas dialogué avec des terroristes. Et on n'a pas déjà annoncé qu'on a l'intention de le faire.
Alors, la Mauritanie a tout de même été relativement épargnée par le terrorisme, heureusement, ces 10 dernières années. Est-ce précisément parce qu'il y a peut-être eu un pacte de non-agression avec certains groupes djihadistes ?
J'entends souvent des allusions de ce genre. Je pense que je ne connais personne, ou surtout je ne connais pas de pays qui ne souhaite pas être en sécurité. Donc sur ce plan, nous disons Alhamdoulilah, Dieu merci, que nous sommes en sécurité. Mais je pense que la question qui devait plutôt être posée, à quel prix vous êtes dans cette situation ? Le prix est là, nous le payons. Nous avons depuis tout le début compris que cette problématique de sécurité est indispensable. Rien ne peut se faire sans être en sécurité. Il n'y a pas de développement dans l'insécurité et qu'il fallait faire de la sécurité la priorité. C'est vrai, cela nous a coûté très cher. En privilégiant la sécurité aux dépens de certains départements ou de certains secteurs sociaux, notamment principalement la santé, l'éducation, les aspects sociaux. Et nous nous sommes investis de telle sorte à ce que nous puissions être en mesure de nous défendre. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes sur 2300 km de frontière avec le Mali. Nous sommes sur une centaine, sur 400 et quelques avec l'Algérie. Et tout cet espace-là est un désert dans lequel les groupes terroristes peuvent évoluer comme ils le veulent. Alors que nous avons construit des bases le long de toutes ces frontières. Nous avons des unités qui circulent et qui quadrillent en permanence de jour comme de nuit. Nous avons des avions équipés de moyens d'observation qui font des reconnaissances et qui travaillent beaucoup sur ça. Nous avons d'autres moyens pour surveiller toutes les activités qui peuvent entraîner une insécurité chez nous. Donc c'est un effort. Et nous nous félicitons effectivement du fait que notre effort a permis de nous mettre dans une situation dans la situation où nous sommes.
Alors, vous parliez du nord du Mali. La France a annoncé que l'opération Barkhane allait être reconfigurée, mais aussi réduite en termes de nombre de troupes, la moitié d'effectifs en moins d'ici la fin 2022. Plusieurs bases militaires françaises dans le nord du Mali ont été fermées, dont celle de Tombouctou, qui n'est pas si loin. Est-ce que vous craignez que cette zone que vous avez vous-même définie comme étant une zone de danger soit à nouveau reprise par les djihadistes et donc vous menace à nouveau directement ?
Je vais vous dire ce que je pense par rapport à ça. Je sais que ça peut diminuer effectivement la maîtrise de la situation sur cette zone qui est déjà suffisamment fragile. Mais j'ai confiance en la volonté de la France qui a accompagné le G5 depuis 2012 ou 2011, depuis son opération Serval qui a été remplacée par Barkhane. Et l'accompagnement et le partenariat avec la France dans cet aspect sécurité du G5 était effectivement rapporteur. Ça a servi à beaucoup de choses. Et les résultats qui ont été déjà obtenus sont positifs. Je pense que la France, qui est pour quelque chose dans ces résultats obtenus, ne risque pas de compromettre ce qui est déjà fait.
Et pour que cette lutte anti-jihadiste soit plus efficace, est-ce qu'il ne faudrait pas que le G5 Sahel monte aussi des opérations conjointes avec l'armée algérienne? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les renseignements du G5 partagent leurs informations avec les renseignements algériens?
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance d'un rôle joué par l'Algérie, ou du fait quand même que l'Algérie est là. C'est l'Algérie partage des frontières avec trois pays du G5. Cette proximité est quand même importante et elle doit être prise en considération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région.
Je veux en venir au conflit dans le Sahara occidental. On a vu au mois de novembre dernier une rupture du cessez-le-feu entre le Maroc et le front Polisario. En décembre, l'administration Trump a reconnu la marocanité du Sahara. On a l'impression que le Maroc a réalisé une percée diplomatique décisive. Est-ce que c'est votre analyse ?
Depuis que la Mauritanie s'est retirée de ce conflit du Sahara occidental, elle a adopté une position, c'est celle d'une neutralité. Ce que je veux, c'est que cette neutralité puisse avoir un qualificatif, et je préfère la qualifier de positive. C'est donc dans cette position et dans cette neutralité que nous entretenons des relations fraternelle et amicale avec toutes les parties, et nous sommes toujours prêts à mettre en œuvre cette neutralité positive pour contribuer à la solution.
Mais Monsieur le Président, si on regarde objectivement la situation, est-ce que une solution négociée est toujours réaliste? Est-ce qu'un référendum d'autodétermination est toujours envisageable? Il semble quand même que la donne vient de changer.
La donne vient de changer à cause de ce que vous venez de dire ?
Oui, à cause de la décision américaine qui a été confirmée pour le moment par l'administration Biden. Il semble quand même que la donne a changé, que l'équilibre n'est plus là.
Je puis vous dire quand même que ce problème a besoin d'une solution. C'est une situation qui dure depuis quelques décennies et nous ne sommes pas si pessimistes que ça. Nous considérons que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution.
En échange de ce geste américain en faveur du Maroc, eh bien, Rabat a rétabli ses relations diplomatiques avec Israël. Est-ce qu'à vos yeux, le Maroc a trahi la cause palestinienne ?
Je n'ai pas du tout à apporter d'appréciation sur les actes de souveraineté que le Maroc exerce dans le cadre de ses relations diplomatiques avec un quiconque.
Et selon des responsables américains cités dans la presse, votre pays lui-même a été en discussion avec l'administration Donald Trump l'année dernière pour normaliser éventuellement ses relations avec Israël. Est-ce qu'on est passé tout près d'un accord ?
Je crois que dans n'importe quoi, on est obligé de se mettre dans son propre contexte. Nous, ici, nous sommes en Mauritanie. Et nous tenons à prendre beaucoup en considération l'avis du peuple mauritanien et des Mauritaniens de façon générale dans des situations ou dans des problèmes ou dans des sujets comme celui-ci. Le peuple mauritanien est très attaché à une solution juste dans le cadre de la question palestinienne à travers l'existence et la reconnaissance d'un État palestinien avec comme pour capitale Jérusalem-Est. Nous considérons que ce n'est que justice et c'est aussi conforme aux résolutions des Nations Unies.
Pardon, excusez-moi. On va passer à la situation en Mauritanie. Votre prédécesseur, le président Mohamed Ould Abdelaziz, a été inculpé au mois de mars pour corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite. Il est écroué depuis un peu plus d'un mois. Il vous accuse directement d'être l'instigateur de ces démêlés avec la justice pour des raisons purement politiques.
Je crois que là aussi, je reviendrai pour dire que nous sommes en Mauritanie, c'est-à-dire que nous connaissons tous un peu comment cette affaire a commencé. Il s'agissait ça a débuté par la création, par le Parlement mauritanien, d'une commission d'enquête parlementaire. Le Parlement l'a fait en se basant sur la Constitution et sur certaines dispositions de son règlement intérieur. La Commission a vu le jour. Elle a été mandatée par le Parlement pour mener cette enquête et avec recommandation de rendre son rapport après 6 mois. À l'issue de ces six mois, le rapport a été rendu et il a été transféré par le Parlement à la justice. Il est actuellement entre les mains de la justice et je n'aurai pas grand-chose à ajouter à cela parce que je préfère ou je m'impose ou c'est ça qui se doit de ne pas me mêler des affaires à justice.
Alors vous parlez de cette enquête parlementaire, on a remarqué qu'elle a démarré en janvier 2020, quelques semaines après que votre prédécesseur eut tenté de reprendre le contrôle du parti au pouvoir, UPR, Union pour la République. Est-ce que la coïncidence des dates n'est pas troublante quand même?
Non, je ne vois pas en quoi cela est troublant. L'UPR est en partie, effectivement, c'était l'outil politique du pouvoir en place. Il s'agit dans n'importe quelle partie d'un certain nombre d'hommes et de femmes. Je ne pense pas qu'on puisse s'approprier un parti et à considérer que c'est un objet. Il s'agit, le parti est composé de directoires, de militants, c'est des personnes. Ils prennent des positions là où ils le veulent. Je ne pense pas du tout qu'on peut lier ces deux événements.
Mais vous n'avez pas apprécié le fait que votre prédécesseur ait voulu reprendre le contrôle de ce parti, alors?
Non, je vous dis, c'est le directoire du parti et c'est les députés du parti, peut-être qu'ils ne l'ont pas apprécié. Au contraire, j'avais beaucoup contribué à calmer cette population, aussi bien au niveau du parti qu'au niveau du Parlement.
Et votre prédécesseur affirme que les députés qui ont lancé cette enquête parlementaire ont été soudoyés par des membres influents de votre entourage dans le but que cette enquête soit ouverte. Qu'est-ce que vous lui répondez?
D'abord, je ne l'ai jamais appris comme ça. Je défie quiconque de dire qu'il a été soudoyé pour prendre une position. parce que je connais bien la situation. Je sais que j'avais fourni beaucoup d'efforts justement pour calmer cette situation. Donc, il n'y avait pas besoin de soudoyer quiconque, justement. S'il devait être soudoyé, c'est pour calmer.
Monsieur le Président, quand on lit ce rapport d'enquête parlementaire, on a l'impression qu'il y a une véritable entreprise de prédation, de népotisme sur l'argent public. Est-ce que ça vous a choqué ?
Je vous assure que je n'ai jamais lu ce rapport.
Vous n'avez jamais lu ce rapport ?
Je vous assure que je n'ai jamais lu ce rapport.
Vous en avez entendu parler, quand
oui,
même.
Oui, j'ai entendu parler de ça. J'ai entendu
ça vous a surpris, certaines choses ?
En réalité, ce n'est pas la peine de vous dire ce que j'ai pensé de tout cela, parce que j'ai considéré que c'était un dossier qui se trouvait à deux niveaux par lesquels je n'étais pas concerné. Tout d'abord, le Parlement, par la suite, la justice.
Mais quand même, vous étiez plutôt ouais. Son ami de 40 ans, son plus proche lieutenant. Beaucoup de gens se disent, quand ils lisent tout ça, vous ne pouvez pas ignorer tout cela. Vous deviez être au courant de ce qui se passait quand même.
J'avais d'autres choses à faire.
Vous ne vous êtes jamais douté de tout ce qui se passait ?
Non. 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 Je ne me suis jamais douté. Je ne me suis jamais douté. Effectivement, pour revenir un peu à ça, je peux vous dire que, en tant que personne, mais pas en tant que président, j'ai été bien surpris par ce qui a été révélé dans ce rapport. Mais c'est des choses, étant donné qu'il ne me revenait pas de prendre des mesures ou d'être à l'intérieur de ce dispositif chargé, soit au niveau de la première entreprise, et encore moins au niveau de la deuxième entreprise qui est au niveau de la justice, je me suis considéré comme un observateur au même titre que les autres militaires.
Est-ce qu'il y a deux ans, lorsque vous avez été élu à la tête de l'État, il y a eu un accord avec votre prédécesseur selon lequel il devait se mettre à l'écart de la vie politique ?
Il n'y a jamais eu d'accord. Mais je ne pense pas que dans des situations comme ça, ou dans le cadre d'un changement de pouvoir, je ne savais pas qu'il devait y avoir des accords pour... Dans ce cadre-là, à moins que je n'ai pas bien compris votre
question. Non, je pose ma question autrement, Monsieur le Président. Est-ce qu'aux yeux de Mohamed Ould Abdelaziz, vous étiez peut-être un Dimitri Medvedev, un président de transition, en attendant son retour à lui, peut-être en tant que Vladimir Poutine ?
Je préfère, justement, il fallait me poser la question sur mes yeux, moi, mais pas sur les yeux de quelqu'un d'autre, là, c'est...
Vous n'avez pas senti de sa part peut-être une façon de vous prendre comme son éternel second, une sorte peut-être de mépris à l'égard de ses proches ?
Non, je n'ai jamais. Il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris dans tout ce qui s'est passé, pour vous parler franchement. Je ne pensais pas. C'est une situation. Je ne pensais pas qu'on pouvait se trouver dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais une fois que c'est arrivé, je crois que là aussi, il faut la vivre. Mais correctement.
Mais vous êtes amer quand même, hein, vous êtes déçu. Hein.
Vos yeux parlent.
Pardon ?
Vos yeux parlent pour vous.
Laissez-les parler, c'est mes yeux quand même. Hein.
En juin 2019, on va revenir, il fait campagne pour vous. Dans votre discours d'investiture, vous le remerciez, j'ai même relu, vous saluez sa gestion des affaires publiques. Est-ce que on peut considérer, ce que font ses proches, qu'il y a une forme d'ingratitude envers lui de votre part ?
Je crois qu'il n'échappe à personne la situation dans laquelle nous étions. Il n'échappe aussi pas non plus à personne la situation dans laquelle les choses se sont trouvées après. Je n'aurais pas beaucoup de choses à ajouter à ce que je vous ai dit concernant le fait que moi aussi j'ai été un peu surpris par ce qui s'était passé.
Juste une petite pression. Il dit que vous l'avez trahi.
Moi, je dis
c'est un mot fort pour quelqu'un comme vous.
Trahi. Non, je dis que je n'ai pas trahi. J'ai pas trahi.
Lui vous a trahi ?
Posez-lui la question.
Alors revenons sur le plan légal, Monsieur le Président. L'ancien président affirme qu'il n'est pas injusticiable comme les autres, parce qu'il a été chef de l'État, et que l'article 93 de la Constitution lui garantit une immunité. Est-ce que la procédure en cours n'est pas illégale ?
Vraiment, je ne suis pas constitutionnaliste à ce point pour trancher dans ça, mais je crois qu'il y a des institutions qui sont compétentes pour ça. Elles doivent le faire ou le dire. Je ne connais pas exactement le moment auquel cela doit être dit, si ça devait déjà être dit ou si ça doit être encore dit. De toute façon, je ne pourrais pas.
Mais s'il y a procès, ce sera plutôt devant une cour d'assises ordinaire ou plutôt devant la haute cour de justice qui est en cours de création ?
Je crois qu'au niveau où nous sommes, ou au niveau du moins où ce dossier est, l'instruction est assurée par la justice ordinaire.
D'accord. Et si jamais l'ancien président restitue une partie des biens mal acquis qu'il aurait éventuellement obtenus, est-ce qu'il pourrait échapper à un procès ? Est-ce qu'on pourrait éviter ?
Il ne me revient pas de prendre des décisions ou de prendre des positions par rapport à ça. Je considère que depuis que le dossier est entre les mains de la justice, il vaut mieux attendre que la justice tranche dans un sens ou dans l'autre, trouve ses compromis.
Alors le président Aziz a renoncé à un troisième mandat et aujourd'hui il est en prison. Alors se pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas le meilleur argument pour les présidents du continent ou d'ailleurs qui veulent s'accrocher au pouvoir. En d'autres mots, ils se disent, si je pars, je risque de finir derrière les barreaux.
Oui, j'ai un peu entendu déjà cette interprétation. Moi, je crois que ceux qui s'accrochent, qui veulent s'accrocher au pouvoir et ne pas accepter d'alternance, n'ont pas besoin d'une situation comme ça pour justifier. Et ceux qui veulent et considèrent que l'alternance est nécessaire ne seront pas plombés justement par le fait que quelqu'un pourrait comparaître devant la justice ou pourrait être interrogé sur certaines choses.
Monsieur le Président, vous refusez, pour l'instant en tout cas, le dialogue national que réclame l'opposition. Les organisations des droits de l'homme vous accusent de vouloir museler la liberté d'expression sur Internet sous couvert de vouloir lutter contre les déviances et contre les fausses rumeurs. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'on assiste peut-être à un virage autoritaire ?
J'ai dû entendre deux questions dans votre question. Celle du dialogue, vous dites que je le refuse. Non, je n'ai jamais refusé de dialogue parce que nous sommes actuellement dans une situation d'apaisement politique et social et qui est effectivement le résultat du fait que je n'ai jamais dit refuser de négocier ou de dialoguer. Et d'ailleurs, il n'y a pas, à ce que je sache, les partis politiques de la majorité et de l'opposition sont depuis un certain temps en train d'échanger sur ce dialogue que vous venez d'évoquer. J'ai seulement dit une fois que je considère que seulement en vocabulaire politique que le dialogue suppose le fait d'être en situation de crise et que je souhaite que ces partis politiques qui sont en train d'échanger trouvent une appellation plus appropriée à notre situation. Nous qui avons fait effectivement une ouverture à l'endroit de l'opposition, de tous les partis politiques, de la société civile, et d'appeler ça une négociation ou des échanges, ou ne pas éviter quand même cette notion de dialogue qui, si vous l'entendez vous-même, de l'autre côté, vous allez croire, ou le commun quand même des personnes va croire que nous sommes dans une situation de crise politique qui suscite le fait de se mettre en dialogue. Mais peu importe au bout du compte, peu importe comment on va les appeler, si les partis politiques de la majorité et de l'opposition nous proposent des sujets sur lesquels ils se sont accordés, au gouvernement, nous n'aurons aucun complexe, aucune retenue pour les mettre en œuvre, en exécution. Ça, c'est par rapport à ce que j'ai dû croire être la première partie de votre question. En ce qui concerne la deuxième partie, je crois que vous faites allusion à un projet de loi qui est passé au gouvernement il y a à peu près de 3 semaines, je ne m'en rappelle plus. Mais avant de l'aborder, je préfère quand même vous affirmer certaines choses importantes pour moi. Ça concerne ces libertés individuelles et collectives et toutes les libertés de façon générale, mais à la tête desquelles il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Tout ceci constitue un axe important et principal dans nos politiques publiques. Dès le début de mon mandat, je crois quelques mois après mon arrivée, nous avons constitué une commission composée de personnalités justement de ce domaine, des journalistes de la presse écrite, des journalistes de l'audiovisuel, des gens qui ont de l'expérience. Et nous avons demandé à cette commission d'étudier et de mettre en œuvre une approche qui permette justement de professionnaliser davantage la presse, qui permette à ces libertés, aux libertés individuelles et collectives, d'être bien consacré, d'être protégé, d'être même développé. Et en ce qui concerne ce texte, non, je ne suis pas de ceux qui l'interprètent comme ça. Ce texte est passé effectivement en tant que projet de loi au niveau du gouvernement. Ce qu'il consacre effectivement est une forme de protection de ces mêmes libertés, mais une forme aussi de préservation de l'honneur et de la dignité des personnes. Et là aussi, c'est une liberté. Il consacre effectivement à notre société plus d'homogénéité et la protège contre ceux qui dressent des discours qui sont de nature à mettre en confrontation les différentes composantes de notre société, mais ce n'est nullement dans l'esprit qui a été dit. Effectivement, nous avons, par la suite, ce texte a été envoyé au Parlement. Je vous rappelle qu'au Parlement, nous avons une majorité très confortable qui nous permet de faire passer les textes, mais quand nous avons appris que cela a susciter certaines susceptibilités, nous avons bien souhaité que le texte soit ajourné jusqu'à ce que toutes les sensibilités politiques, qu'elles soient même de l'opposition, puissent discuter et comprendre mieux la teneur du texte. Et là, nous sommes convaincus qu'ils vont tous la comprendre parce qu'elle la concerne, elle les concerne tous. Au bout du compte, ce n'est pas la formulation définitive qui nous intéresse, et qu'il soit formulé quels que le voudront ceux qui vont en discuter, L'essentiel pour nous, justement, est que, au bout du compte, dans sa formulation définitive, qui consacre ces libertés individuelles, collectives, toutes sortes de libertés, et qu'il puisse protéger notre société et qu'il puisse protéger les libertés aussi et la dignité des personnes. Je crois que je me suis beaucoup étalé sur ça pour vous l'expliquer, mais c'est pas.
Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale.